Les colloques du Collège de France.
C'est donc maintenant Patricia Oster-Stirle. C'est toujours le jeu du hasard et de la technique. Et on est très heureux quand le problème est trouvé et résolu. Donc, je vous présente Patricia Oster-Stirle, que je connais bien. Je ne sais pas si c'est une recommandation, mais de toute façon, c'est un fait. Elle est professeure à l'université de la Sarre. Elle a été vice-présidente de l'université de la Sarre et présidente de l'université franco-allemande. Et il faut dire que le franco-allemand lui tient particulièrement à cœur. Elle est engagée dans beaucoup de contextes franco-allemands. Et en plus, elle fait partie comme membre de l'Académie de Berlin, qui est une académie d'intellectuels, d'écrivains, de producteurs de films, qui sont tous engagés à une compréhension approfondie de la France. Je cite quelques-unes de ses œuvres. Elle a commencé avec une grande étude sur Marivaux et la fin de la tragédie, où Marivaux apparaît dans une nouvelle lumière. Puis elle a continué avec un grand travail, Der Schleier im Text, le voile dans le texte, la grande tradition, n'est-ce pas, qui de Tante jusqu'à présent a toujours d'autres métamorphoses. Puis elle est aussi traductrice, parce qu'elle a traduit l'improbable, et avec ce titre, Das Unwahrscheinliche oder die Kunst, ce qui donne une interprétation de l'improbable qui me semble tout à fait juste. Et je crois avec ces paroles, je peux te donner la parole à toi pour présenter une vue sur Yves. En Allemagne.
Merci beaucoup pour cette gentille présentation. Cher Carlo, je suis très heureuse de célébrer l'inauguration du siècle Yves Bonnefoy avec vous, et je suis très heureuse que nous sommes ensemble ici. Je vais parler de Yves Bonnefoy en Allemagne, une présence et un lieu. La présence d'Yves Bonnefoy s'impose aujourd'hui, ici, dans cette salle, au Collège de France, parmi tous ses amis. Le grand poète Yves Bonnefoy était très présent en Allemagne, où il jouissait d'une réputation considérable. Les titres des journaux allemands ne parlaient pas seulement d'un immense poète, critique d'art, traducteur, professeur au Collège de France, d'un des plus célèbres poeti francesi contemporanei, comme les journaux italiens, ou one of the most of the 20th century greatest poets, comme les journaux américains et anglais, mais d'un second Baudelaire. Yves Bonnefoy était indéniablement une figure emblématique de la poésie française en Allemagne. Dans un article, L'Europe et la poésie en 2009, Yves Bonnefoy a confirmé que l'Allemagne s'inscrivait déjà, entre 1943 et 1947, au moment de l'espérance surréaliste, dans son horizon, où il partageait ainsi la grande affection d'André Breton pour la poésie romantique, pour Novalis et Achim von Arnim. Il avait ressenti comme un désastre les ravages que le nazisme avait portés à la grande tradition littéraire et philosophique de l'Allemagne, qu'il découvrait aussi en suivant les cours à la Sorbonne de Jean Wahl, qui fut son maître, et de Jean Hippolyte et de Patronier de Grandillac. Et il a ajouté un témoignage très touchant. Je cite, « Après tant d'années de marché commun, puis d'Union européenne, c'est toujours avec émotion que je me vois, dans quelques voitures amies, passer sans aucun signe pour l'indiquer, d'Allemagne en France. Un de mes vœux les plus chers s'était réalisé en effet. Moi, qui avais su enfant le pont de Kiel bloqué à ses deux bouts par des canons, j'avais toujours désiré que nos grandes nations, sans cesser chacune le moi du monde d'être soi-même, bien au contraire, se fassent une conversation, un échange. Fin de citation. La rencontre avec Paul Celan en 48 et l'œuvre de Rilke ont eu évidemment aussi une grande importance dans le rapport d'Yves Bonnefoy avec l'Allemagne, mais Karl-Heinz en a déjà parlé ce matin. Je suis très heureuse d'avoir trouvé un document dans les archives du Saarländischer Rundfunk de la radio Saarbrück qui témoigne de la première présence du jeune poète français Yves Bonnefoy en Allemagne à Saarbrück en 1961. Avec Michel Butor et Eugène Ionesco, il était invité à un colloque sur l'écrivain et son temps, Der Schriftsteller und seine Zeit. Guy Michaud, directeur de l'Institut d'études françaises à l'Université de la Sarre, et Arno Krause, directeur de l'Europa House, Otzenhausen, avaient invité une douzaine d'écrivains français et allemands qu'ils avaient logés au château Hallberg, mis à disposition par Radio Saarbrück. Et ce jeune poète français qu'on connaissait à peine en Allemagne a tout de suite attiré l'attention par sa détermination de poète et la radicalité de ses propos. Je vais vous montrer une partie d'une émission qui a été diffusée lors du colloque et dans laquelle on voit très bien que le discours d'Yves Bonnefoy était au centre du débat. Ça commence en allemand, mais vous allez voir, ça change.
Und hier ist Herr Bonnefoy, der in einer sehr beachteten Rede über den Dichter gesprochen hat gestern. Und hier ist Monsieur Escarpi, Professor an der Universität in Bordeaux. Herr Bonnefoy hat gestern einen sehr interessanten Vortrag gehalten und hat uns gesagt, dass im Grunde genommen die Dichtung ausgesprochen hermetisch sein soll. Das heißt, es soll kein Kontakt bestehen zwischen dem Dichter und dem Publikum. Und das ist doch eigentlich ein kapitales Problem, finden Sie nicht?
Ja, er soll hermetisch bleiben, ist ja in der Psychologie, wenn er schreibt. Er sagte nicht, dass das Publikum das nicht verstehen soll.
Selbstverständlich.
Er hat sich nicht um das Publikum zu kümmern.
Ja, es ist natürlich eine Frage der Kommunikation, nicht wahr? Und darüber, nicht wahr? Über das Verhältnis des Schriftstellers zum Publikum sagte er ja, dass er nicht an das Publikum denkt, wenn er ein Gedicht macht. Si je vous ai bien compris, vous avez bien dit que le poète ne doit pas se soucier du public en écrivant. La poésie
oui,
n'est pas...
Absolument, absolument.
Bien sûr, alors je ne trahis pas votre pensée.
Sûrement pas.
Also Herr Bonnefoy bestätigt nicht, dass wir ihn hier richtig verstanden haben. Aber Sie, Herr...
Ah, malheureusement, je vois que ça marche très mal parce qu'il y a un décalage entre le son et les images. Mais vous avez vu Yves Bonnefoy dans ce passage qui est à côté et qui répond justement. Et on est très surpris qu'il parle de ses poèmes et qu'il dit qu'il n'a pas besoin ou pratiquement pas besoin du lecteur.
Und hier ist Herr.
Non, je ne vais pas arriver à le montrer comme je l'espérais, mais on peut le voir, ce film, sur l'Internet, YouTube, il est sur YouTube, donc on peut le voir, il est public. Mais je vais vous parler maintenant de ce qu'il a dit pendant le colloque, justement, et pourquoi il y a des écrivains, il y avait les éditeurs de Zurkamp et du Mercure de France, il y avait un universitaire, Escarpit, et puis des écrivains et des journalistes. Et c'est surtout son rapport au lecteur qui a intrigué les participants du colloque. Son discours, lors du colloque, a été traduit en allemand. Moi, j'ai dû le retraduire en français. Je commence avec quelque chose qu'il a dit en allemand et puis je vais le traduire. Auf alle Fälle jedoch ist es so, dass niemals im dichterischen Vorhaben dieser eigenartige, unwichtige dritte Faktor eine Rolle spielt, nämlich der Leser. Mais dans tous les cas, il est vrai que jamais dans l'entreprise poétique, ce troisième facteur étrange et insignifiant qu'est le lecteur ne joue le moindre rôle. L'entreprise poétique vit principalement dans cette solitude, je dirais presque dans cet égoïsme. En tout cas, j'écris aussi si je savais que tout ce que je peux écrire à partir de maintenant ne serait jamais publié. Même si je me retrouvais sur une île, cela ne changerait rien à mes rapports avec la langue. J'évite l'idée que ce que j'écris sera publié. C'est bien plus un fardeau qu'une incitation. » Fin de citation. Yves Bonnefoy se prononce aussi par rapport à la critique littéraire. Citation. « Die Kritik ist eine Art negative Theologie. » La critique est une sorte de théologie négative. Comment peut-on entendre des théologiens dire que Dieu n'est pas ceci ni cela, et ceux-là ne disent rien sur la nature de Dieu, mais sur la nature de la représentation conceptuelle qui ne parvient pas à trouver une certaine forme de réalité. Ainsi, pour moi, la critique se réfère au langage, à l'idée. Elle ne parle des œuvres que pour parler d'autre chose. Vous pouvez vous imaginer que ça a choqué à ce moment-là, 61, à Sarrebruck. Ce colloque à Sarrebruck, où ce jeune poète frappe déjà par sa détermination, marque aussi la première rencontre avec son futur traducteur, Friedhelm Kempf. Kempf parle dans un petit abrégé commémoratif de ce grand moment pour lui. Citation, « Je me souviens encore, cher Yves, de notre première rencontre. Elle eut lieu au bar du faux château médiéval de Sarrebruck en février 61. Ce fut le début de notre longue amitié, suivie de nombreuses rencontres, soit à Paris et à Cérisy-la-Salle et à Loche chez Gilbert Gadoffre. Vous avez lu vos poèmes à Berlin, à Cologne, à Düsseldorf, à Hanovre, à Göttingen et à Munich, et j'ai lu mes traductions à côté de vous. » Celle hier régnant désert parut encore au cours de l'année 61 dans la Neue Rundschau. À partir de là, Kempf deviendra la voix allemande d'Yves Bonnefoy. Et je crains que ce traducteur de Baudelaire a fait d'Yves Bonnefoy justement un second Baudelaire. C'était une autre génération qui avait une certaine idée de la dignité de la grande poésie, qui ne correspond pas à la poésie d'Yves Bonnefoy, qui prend des risques dans la langue et qui cherche des mots simples. En 91, l'Académie des Beaux-Arts bavaroise a décerné le prix Horst Binek au poète et son traducteur. Une très grande partie de l'œuvre d'Yves Bonnefoy a donc été traduite en allemand. Mais surtout, en ce qui concerne les premiers recueils de poésie, on peut constater un important décalage entre la publication en France et en Allemagne. C'est le cas pour du mouvement et de l'immobilité de Douve, qui ne fut traduit qu'en 2004 par Friedhelm Kempf, dans un volume qui contenait aussi Pierre écrite. On peut aussi remarquer que les recueils de poésie se présentent différemment en Allemagne et en France, les couvertures des livres allemands faisant souvent montre d'une modernité qui n'apparaît pas dans les éditions du Mercure de France. Donc il y a un décalage entre la traduction, qui est beaucoup plus traditionnelle que la poésie d'Yves Bonnefoy, et la couverture du livre, qui est beaucoup plus moderne que le livre français, du magnifique, bien sûr, du Mercure de France. Alors, je vais vous montrer quelques couvertures. Là, ce n'est pas le cas pour la rue Traversière, mais là, on voit encore pour ce Fucus sans lumière et Récit en rêve aussi. Là, c'est encore un peu différent, mais les planches courbes, on le voit encore une fois. À la fin de sa vie, Bonnefoy était déjà bien connu en Allemagne et beaucoup lu, surtout en français, dans les universités. Et ses œuvres étaient rapidement traduites après leur publication en France. Après la mort de Friedhelm Kempf, ce sont Elisabeth Edel et Wolfgang Matz qui traduiront Rature et Outre, tout de suite après l'apparition pratiquement, L'écharpe rouge, La longue chaîne de l'encre, et puis aussi Ensemble encore. Mais malheureusement, il faut dire, Matz est encore un disciple de Friedhelm Kempf. Ses essais sur l'art ont d'abord été traduits avec beaucoup de retard. J'ai traduit L'improbable en 1997. J'ai eu une immense joie en le traduisant et je pense à Martin Ruff de ce matin qui a dit que c'est un univers qui s'ouvre. Voilà, c'était un univers qui s'est ouvert pour moi. Et j'ai évidemment beaucoup réfléchi à la spécificité de la langue d'Yves Bonnefoy. Vos phrases françaises plaignaient, un des traducteurs de la prose d'Yves Bonnefoy en refusant de maintenir sa complexité de structure syntaxique qu'il se félicitait de remplacer au sein de la langue anglaise, dans l'ordre qu'il faut. Dans cette perspective, le texte original serait obligé de se plier aux règles de la langue qui sera désormais sans lieu. Walter Benjamin proclame justement le contraire dans son admirable essai « La tâche du traducteur ». Selon Benjamin, la langue qui accueille le texte étranger doit chercher des réponses à ce nouveau venu en étendant les limites de sa propre médialité. Chaque traduction permet à la langue de s'élargir et de s'enrichir si le traducteur n'hésite pas à transgresser des règles en remuant profondément sa propre langue. Au lieu de germaniser le français, il faudrait donc plutôt franciser l'allemand. L'aspiration au texte originel serait ainsi inscrite pour toujours dans le texte traduit, qui ne ressemblerait jamais à un original de langue maternelle. Il maintiendrait au contraire une transparence qui permettrait d'apercevoir l'autre du texte à travers la langue familière au lecteur. L'élaboration du sens se situe d'une part au niveau de l'interprétation des mots, tant il est souvent difficile à trouver une signification équivalente dans une traduction. Aussi, le réseau de connotations ne peut-il rarement se maintenir entièrement dans un texte traduit. Mais la syntaxe, qui elle aussi est porteuse de significations, ne pose pas les mêmes problèmes au traducteur. Yves Bonnefoy distingue deux manières de vivre la longue phrase, une syntaxe spéculative et une syntaxe habitable. La longue phrase française peut se présenter comme une architecture où l'on voit s'élancer les uns vers les autres comme des éléments de charpente, les « du moment que » ou « d'autant plus que » ou « d'où suit » que fournit la syntaxe. C'est une citation d'Yves Bonnefoy. En traduisant un essai d'Yves Bonnefoy, il faut donc se garder d'effacer les traces de son organisation syntaxique. Le traducteur doit au contraire essayer de rendre son texte transparent au temps du vécu, au temps d'acquisition d'une pensée reflétée dans la structure syntaxique. La langue allemande se prête particulièrement à cette tâche puisqu'elle n'est pas sous le joug d'une clarté spéculative et qu'elle connaît une organisation complexe de la phrase qui ne se limite pas à des éléments de charpente comme « du moment que », »,« d'autant plus que » ou « d'où suit ». Incidents et inversions y sont de règle. En analysant la configuration syntaxique dans un texte d'Yves Bonnefoy, il devient clair à quel point la structure de la phrase se refuse catégoriquement à toute syntaxe spéculative. « Le nuage rouge » a été traduit 2 ans plus tard par Michel von Killeschorn. Les couvertures des livres, on le remarque maintenant, ressemblent à l'édition française d'un livre de poche. Le grand livre d'Yves Bonnefoy sur Giacometti a été traduit en allemand l'année suivante de la parution en 1992. Le beau texte en prose « L'arrière-pays » attend encore son traducteur ou sa traductrice. Nous l'avions proposé à la maison d'édition Hansa, mais ont refusé malheureusement. Mais je crois qu'il faut continuer à se battre pour ce magnifique texte. Évidemment, un grand nombre de revues allemandes ont publié des poèmes d'Yves Bonnefoy. Oups, ça va trop vite. Et des livres sur Yves Bonnefoy et beaucoup d'autres publications sur des aspects particuliers de son œuvre ont également été publiées en Allemagne. Nous avons connu Yves Bonnefoy à Loche en juillet 1986 lors d'un colloque sur Poésie-Vérité sous la direction de Gilbert Gadoffre. Les rencontres internationales de Loche étaient aussi un lieu d'amitié franco-allemande. Nous avons alors échangé avec Jean Starobinski, Tommy Lillian Green et Hans-Robert Jauss de Constance. En 1992, Karl-Heinz Stiel a invité Yves Bonnefoy à l'université de Constance pour donner 3 leçons sur la poésie, sur Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, et une sur Giacometti, la traduction allemande de son livre sur Giacometti venant d'être publiée. Nous l'avons accueilli chez nous à Dingelsdorf. Oh, ça va trop vite. Je me demande où c'est. Non, c'est drôle. Je me demande ce qui s'est passé. Il me manque des... Mais c'est pas grave. Nous l'avons accueilli chez nous à Dingelsdorf et il était heureux d'y travailler à une table qui avait appartenu à Gabriele D'Annunzio. Dans la soirée, il nous a fait un don tout à fait précieux. Il nous a lu ses poèmes à haute voix pendant un long moment inoubliable. Nous avons fait partie, comme beaucoup d'amis qui sont réunis ici aujourd'hui, d'un cercle créé par Yves Bonnefoy au Collège de France, la conscience de soi de la poésie. En 2005, j'ai invité le groupe à l'Université de la Sarre, à Saarbrück, lieu où on trouve la première trace du poète Yves Bonnefoy en Allemagne. C'était donc le premier colloque du Collège de France, Extramuros, et le dernier colloque du groupe La conscience de soi de la poésie. C'est un très beau souvenir et je vais vous montrer des photos et il y en a beaucoup d'amis chers qui nous ont quittés. Alors là, il y a Jacqueline Risset et Yves Bonnefoy, il y a Harald Weinrich et Odile Bombard qui est avec nous. Là, il y a Carlo Ossola, il y a Lucie et il y a Michael Edwards et Bertrand Marshall. Là, on voit Michael Edwards et Michel Zinck, bien sûr, et Umberto Todini. Et là, on voit encore Patrick Labarthe et Marc Fomaroli, Jérôme Thélault, Michel Funk et Jean-Paul Lavisse, évidemment, faisaient partie aussi de ce groupe. Le sujet du colloque était axé sur le palimpseste poétique, effacement et superposition. Le terme de palimpseste a fait fortune depuis l'invention de nouvelles méthodes chimiques au XIXe siècle pour rendre lisibles les couches d'une écriture antérieure et effacée. De Quincy, Baudelaire et Nerval furent les premiers à se servir de ce terme technique en le transformant en concept poétologique. L'écriture moderne s'est inspirée de ses fondateurs d'une nouvelle poétique pour explorer un nouveau domaine de la superposition de sens. Dans une approche philologique tirant parti du texte dans sa matérialité de parchemin, on mettrait l'accent plutôt sur l'acte de destruction d'un texte dont il ne reste plus de traces. Yves Bonnefoy a développé une approche tout à fait particulière qu'il a poursuivie aussi dans son recueil « Raturé outre ». Je possède encore les transcriptions des discussions non publiées de ce colloque et je vais en citer quelques passages. Selon Yves Bonnefoy, la pensée du palimpseste est un instrument de réflexion sur le poétique. Il illumine la situation du poète entre la présence du poème et la fatalité d'une transcendance vers une illusion de profondeur. Pour Yves Bonnefoy, le palimpseste est l'image même de la hantise du poète de voir s'aligner la présence de sa parole par l'impression de la transcendance. Au lieu d'accentuer le côté poétique des strates superposées, Yves Bonnefoy n'y voit qu'un piège. Selon lui, c'est la poésie qui nous délivre de la hantise du palimpseste. Dans la discussion, il développe une comparaison très intéressante entre le parchemin et la forme du sonnet. Je cite sa réflexion dans la discussion. Quand on est à la recherche de l'équivalent du parchemin en matière de création littéraire, non pas la métaphore, mais l'objet, le parchemin, on se dit que la forme fixe, le sonnet par exemple, est l'équivalent de ce parchemin. On efface tout dans le sonnet. On efface le sonnet du XVe siècle, le sonnet pétrarchiste. On efface tout pour un nouveau sonnet. C'est le sonnet de Nerval, disons. C'est les chimères. À nouveau, on peut effacer tout et ainsi de suite. Donc, la forme fixe, la forme qui se fixe, est en quelque sorte l'équivalent, non pas métaphorique, mais réel, de l'objet, du palimpseste, du parchemin. Et il poursuit sa réflexion sur le sonnet. Citation, à propos du sonnet, un peu en marge des considérations sur le palimpseste, il y a une résilience, une pérennité de la forme sonnet qui est frappante. Indépendamment du passé, il se retrouve neuf par le fait même de sa forme intérieure. On peut se demander si les formes n'ont pas en elles-mêmes des vertus qui font qu'elles s'imposent à la conscience. Il me semble que le sonnet trouve sa vertu du fait qu'au fond, c'est ce qui ressemble le plus au syllogisme. Et du coup, cela transpose sur le plan de l'imaginaire et de la poésie ce que la logique et la responsabilité philosophique exercent à leur propre plan. Fin de citation. Il ajoute, encore citation, tout est risque. pour la poésie. Et donc, si le risque marque fort, c'est presque une chance, parce que le risque reconnu comme tel est une stimulation, une force. Il se peut que justement le sonnet soit vécu comme une provocation que l'on a envie périodiquement de retrouver. Il y a un avenir pour le sonnet. Le 21e siècle sera le siècle du sonnet. L'antidote de la religion, ce sera le sonnet. Je trouvais tellement belle cette citation qu'il fallait absolument vous la lire. Et puis le soir, après la séquence de travail, nous avons eu la grande joie d'assister à une lecture d'Yves Bonnefoy dans le musée de la Schlosskirche. Il a lu le poème « La maison natale ». Il a également lu les traductions des sonnets de Pétrarque et des traductions de sonnets de Shakespeare, ainsi que des extraits de sa traduction de « La tempête ». Nous avons donc eu la chance de savourer la présence du poète, du traducteur et du chercheur insatiable d'Yves Bonnefoy à Saint-Bruc. Et là, j'ai encore une belle photo de Lucie et d'Yves avant sa lecture. Mais si on parle d'Yves Bonnefoy et de l'Allemagne, il faut aussi parler de sa fille Mathilde en Allemagne et de Dirk Wilotzki et de son petit-fils André qui vivent à Berlin. Mathilde et Dirk l'ont fait découvrir l'Allemagne d'une autre manière, la Uckermark, par exemple, un paysage où il s'est beaucoup plu. Et c'était Dirk qui avait enregistré, à la fin de la vie d'Yves, à l'hôpital, une lecture du texte « Ensemble encore », des mots qu'Yves voulait adresser de vive voix à ses amis lors de la cérémonie de ses obsèques au Père Lachaise. C'était un moment tout à fait inoubliable. Je vais vous faire écouter encore, si ça marche jamais, une dernière bande, un enregistrement d'une chorale encore de Saarbrück qui a chanté sur une musique de Thierry Machuel, un poème d'Yves Bonnefoy, extrait du recueil Sur la Terre Simple. On a entendu par John Norton aujourd'hui à ce flocon qui sur ma main se pose. L'arrêter parce que j'ai encore un autre texte que je veux absolument vous faire écouter. Ce que je veux que Yves Bonnefoy ait la dernière parole, et c'est un enregistrement au musée de la Moderne Galerie du poème Delphes au second jour qui date justement de aussi il y a 30 ans.
Delphes du second jour. Ici, l'inquiète voix consent d'aimer la pierre simple. Le dalle que le temps a servi et délivre, l'olivier dont la force a goût de sèche pierre, le pas dans son vrai lieu, l'inquiète voix heureuse sous les roches du silence, et l'infini, l'indéfini répond des sonnailles, rivages ou morts. De nul effroi était ton gouffre clair, Delphes du second jour.
Voilà, je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.